Bonsoir.
Alors, on attaque cette troisième séance sur la question du désir. Le désir dont on a vu à travers la problématique du bien-dire, qu'il était à la fois quelque chose qui remettait en question le discours philosophique dans sa volonté de définir conceptuellement les choses. Ça, c'était le premier point, ce que j'avais appelé la distinction entre le bien-dire et le bien-penser. Et puis, je vous avais dit aussi que la question du bien-dire dans le désir était quelque chose qui se distinguait aussi du bien-pensant. C'est-à-dire que le désir était non pas à contre-courant de la morale, ni morale en lui-même, mais quelque chose, je m'étais contenté de l'affirmer jusque-là, qui était autre que la morale. Et donc, c'est la semaine dernière, on a vu que cette question du désir, notamment à travers le désir particulier de Socrate pour Alcibiade, pour Agathon, la manière de dire le désir dans tout ce banquet de Platon, était quelque chose qui, là aussi, remettait en question la rationalité du discours philosophique, l'obsession de Socrate de vouloir sans arrêt entrer dans un discours logique, rationnel, démontrable pour parler des choses, était sans cesse contourné par une autre forme de discours dans le banquet où le désir essaye de se traduire non pas forcément à travers la logique ou à travers un discours rationnel, mais un discours bien dit, stylisé, et qui peut tout à fait dire le désir tout en le travestissant. Merci beaucoup. Donc le désir remettait en question aussi tout le problème de l'idéal de la vérité. C'était tout le lien que je voulais faire aussi par rapport à la notion d'étonnement qui était à l'origine de la philosophie. L'étonnement philosophique n'est pas quelque chose qui, à l'origine, est d'emblée dans le souci de la vérité, d'emblée dans le souci de la rationalité, mais qui est dans le souci de la création de quelque chose de nouveau. Et cette création, c'est la simple déjà volonté de bien dire un étonnement, quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire, qui est extraordinaire au sens propre. Cette volonté du bien dire était donc l'envers du manque que soulignait l'étonnement. Bon, là, je reprends un certain nombre de points que j'avais essayé de développer dans les cours précédents. Alors, ce soir, j'ai annoncé sur le programme de la séance de ce soir la raison et le désir, le style philosophique en question, et notamment Kant, Sade, Adorno et Lacan. Alors, je précise tout de suite, je vais entrer vraiment, enfin, autant que c'est possible de le faire en une heure, dans le texte pour ce qui est de Kant et de Sade. Lacan et Adorno sont les deux influences ici, deux des influences qui m'ont permis de retravailler aussi ce rapprochement, parce que Lacan le fait dans les séminaires et puis dans un texte qui devait être à l'origine la préface de la philosophie dans le boudoir de Sade et puis qui en fait a été apparaît dans les écrits je crois maintenant aujourd'hui qui s'appelle Kant avec Sade. Et puis Adorno parce que en réalité le rapprochement entre Kant et Sade, Lacan n'est pas le premier à l'avoir fait, on le sait beaucoup moins, le premier c'est Adorno qui s'était servi de ce rapprochement pour à la suite notamment de la Seconde Guerre mondiale pour montrer que la rationalité n'était pas du tout la garantie de l'établissement d'un ordre moral, et donc il voulait montrer que la morale kantienne était tout à fait subversive quelque part et Kant ne fonde pas le nazisme, hein, je ne dis pas du tout ça, mais en tout cas que la rationalité était quelque chose d'insuffisant pour garantir la teneur morale d'une idéologie. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer de voir un peu ce soir. Pour voir aussi comment ce désir qui structure ici l'ensemble des exposés que j'essaye de vous faire, comment ce désir se situe ailleurs, autre part que dans la question morale. Pourquoi il est autre que la morale? Et ça, je voudrais le montrer donc en entrant dans ce rapprochement philosophique entre Kant et Sade, ce qui suppose, dans un premier temps, que je vous parle de Kant. Et plus précisément, de la philosophie morale de Kant. Alors, même quand on ne connaît pas Kant, on sait, généralement, on en a vaguement entendu parler, mais Kant, c'est un énorme système philosophique. Et énorme système philosophique, c'est-à-dire qu'il essaye de recouvrir à peu dans un même système rationnel l'ensemble du champ de ce qui fait l'humain. Je veux dire par là, vous savez, il y a trois questions très connues de Kant, que Kant pose: que puis-je connaître, que dois-je faire et que m'est-il permis d'espérer? Ces trois questions, en fait, recouvrent un champ très simple de l'humain. Kant dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On connaît des choses, c'est-à-dire on se rapporte à des choses qu'on essaye de comprendre. On agit, et donc, qu'est-ce que ça veut dire bien agir ou agir moralement? Que dois-je faire? C'est la deuxième question. Et que m'est-il permis d'espérer? Là, c'est toute la dimension plus affective qui correspond à ce que Kant appelle le sentiment de plaisir et de peine. Et ces trois, bon, c'est présenté de manière un peu schématique, mais la correspondance existe à peu près, c'est-à-dire que ces trois grandes questions correspondent en fait aux trois grands ouvrages majeurs de Kant, que sont la critique de la raison pure, qui va interroger la connaissance, la critique de la raison pratique et un peu avant, les fondements de la métaphysique des mœurs, qui interroge la philosophie morale, et enfin la critique de la faculté de juger, qui va interroger la sensibilité humaine, dans son rapport à l'art, mais aussi à d'autres sentiments esthétiques. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler de tout ça ce soir. Cela dit, il faut quand même que j'essaie de vous faire comprendre ce qui est propre à la philosophie morale de Kant, et donc à la question « que dois-je faire ?» Et pourquoi je vais m'intéresser à cela? Parce que, tout simplement, la philosophie morale de Kant, elle a un but: développer ce que Kant appelle la faculté supérieure de désirer. Donc il s'agit bien, en tout cas, nous avons une faculté de désirer, et Kant veut montrer ce qu'est la faculté supérieure de désirer. Et cette faculté est supérieure précisément en tant qu'elle est morale, chez Kant. Donc il s'agit bien, quelque part, de réguler le désir, de réguler son action, en tout cas. Donc, Kant se pose une question, en somme, simple au départ, dans cette philosophie morale. Il se dit, voilà, qu'est-ce que... il faut que je précise autre chose d'abord. Dans notre rapport aux choses, aux autres, au monde, à tout ce qui existe, ce rapport passe chez Kant, dans l'expérience que nous avons de chaque chose, ce rapport passe chez Kant par des représentations. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que tout ce dont nous faisons l'expérience est cause simultanément une représentation. Enfin, cause, c'est pas le bon terme, mais nous avons simultanément une représentation dans l'esprit. Et donc, quand il interroge la connaissance, il va se demander dans quelle mesure ma représentation est-elle conforme à l'objet, pour dire simplement. Quand il va interroger le sentiment de plaisir et de peine, il va se dire dans quelle mesure, enfin, quels sont les effets de la représentation de l'objet sur ma sensibilité. Ça, c'est ce qu'il interroge dans la critique de la faculté de juger. Dans la philosophie morale, il va se demander la chose suivante. Il va se dire quelle doit être ma représentation pour que mon action soit orientée vers une action vertueuse, morale. Quelle doit être la nature de cette représentation? Alors, ça, chez Kant, ça passe par une chose. Kant ne prétend pas spécifiquement inventer quelque chose, ni même créer quelque chose. Pour lui, la plupart de nos problèmes, que ce soit dans la connaissance, dans la morale ou dans l'affectivité, c'est que on exerce mal notre raison. Et donc, son objectif principal, c'est d'épurer la raison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, dans le cadre de la connaissance, de ne pas essayer de connaître au-delà de ce que la raison est capable de connaître. Et dans le cadre de la morale, et là c'est très intéressant, qu'est-ce que ça veut dire bien exercer sa raison dans le cadre de la morale ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait être moral, après tout ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait bien agir ? Eh bien parce que, pour Kant, l'exercice de la raison dans la morale, si vraiment nous parvenons à l'exercer correctement, si nous sommes moraux, eh bien, nous atteindrons aussi la plus grande liberté qui soit. Ce que Kant appelle l'autonomie, au sens étymologique, vraiment, du terme autonomie, c'est-à-dire le fait de se donner à soi-même sa propre loi. C'est ça que veut dire autonomie, à l'origine. Donc là, son problème de départ, Kant, c'est, voilà, je veux trouver comment bien agir, et il suppose au départ que bien agir, agir moralement, c'est aussi ce qui va nous permettre d'être d'autant plus libres. Et j'insiste vraiment sur la question de cet idéal de liberté qui guide aussi la morale kantienne. Il est très important parce que vous allez voir que on va le retrouver ailleurs, ça. Alors, je vous disais, Kant n'invente pas. Il cherche à épurer la raison. Donc, dans le cadre de la philosophie morale, de la philosophie des mœurs, qui doit réguler la faculté de désirer, il se demande pourquoi ne sommes-nous pas moraux ? Et cette question est d'autant plus étrange pour lui, parce que, je vous dis, il ne prétend pas inventer quoi que ce soit, il dit même, la loi morale, chacun l'a naturellement, j'allais dire. La loi morale, ça c'est une expression extrêmement importante de la critique de la raison pratique, la loi morale c'est un fait de la raison, dit Kant, un fait. À partir du moment où nous sommes rationnels, à partir du moment où nous avons une raison, nous avons la capacité d'être moral. Alors pourquoi nous ne le sommes pas ? Alors la première hypothèse c'est nous sommes tous mauvais par volonté. Quant à cette indulgence de nous prêter la possibilité d'avoir une bonne volonté. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, dit Kant, c'est que nous confondons le rationnel et l'empirique. Alors qu'est-ce que c'est que l'empirique ? L'empirique, c'est tout ce qui est relatif à notre expérience. C'est tout ce que nous avons acquis par expérience. Et c'est un concept extrêmement large, l'empirique, chez Kant. Pourquoi ? Parce que ça regroupe, en fait, tout ce que nous avons acquis par notre culture, notre éducation, notre expérience vécue, nos sens, tout ça, c'est de nature empirique. Et donc, dit Kant, toutes les conceptions du bien et du bonheur qui existent dans le monde, toutes, elles sont culturellement déterminées, donc elles sont empiriques. Et c'est précisément tout ce domaine de l'empirique que nous confondons avec le rationnel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que je vais m'imaginer par exemple pour faire une bonne action, il faut que je suive des principes liés au dogme d'une religion, par exemple, quelle que soit la religion. Je vais m'imaginer que pour faire une bonne action, il faut que je suive des principes qu'on m'a enseigné dans mon éducation. Voilà. Tout cela, dit Kant, tout cela, ce sont des conceptions acceptables, mais elles ne peuvent pas être morales c'est impossible pour la bonne raison que si une morale existe, et ça c'est très important aussi, elle doit être valable pour tous, elle doit être universelle. La seule chose qu'on puisse dire de la morale, dit Kant, la seule, vraiment la seule, c'est qu'elle doit être universelle, indépendante donc de tout ce qui est empirique, de toutes nos conceptions du bonheur, du bien. C'est la seule garantie pour que cette morale soit une morale véritable. Alors le problème, c'est qu'il va, il va falloir la fonder, cette morale. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on a dit ça? Alors ça, c'est le, ce que je vous développe ici, c'est ce qu'on trouve chez Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs et dans la critique de la raison pratique. Ben, il faut essayer, justement, pour ne plus confondre le rationnel et l'empirique, de mettre de côté tout ce qui, en nous, est de l'ordre de l'empirique. Il faut se débarrasser de tout ça, abstraitement. Alors, Kant fait la démarche, il cherche qu'est-ce qu'il reste, au fond, une fois qu'on a aboli en nous tout ce qui était d'ordre empirique. Ben Kant, qu'est-ce qui peut nous rester pour définir la morale? Ben Kant dit rien. Excepté une chose. Une, c'est l'exigence que la morale soit universelle. Alors qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il en déduit un principe. Un principe qui va devenir l'impératif catégorique kantien et qui, dont la seule exigence, la seule, va être l'universalité. C'est-à-dire, Kant va poser, agit de telle sorte que le principe ou la maxime qui guide ton action puisse devenir le principe d'une législation universelle. C'est là l'impératif catégorique kantien. Alors qu'est-ce qu'on en fait ça? Je vous prends un exemple très concret. C'est un impératif purement logique. Et Kant dit, notamment dans les fondements de la métaphysique des mœurs, comment ça s'applique, ça? Il dit, voilà, si, quand vous analysez le motif, le principe qui guide votre action, je donnerai un exemple après, si quand vous élevez ce principe au principe d'une loi universelle, vous aboutissez à quelque chose de contradictoire ou d'impossible, c'est que l'action que vous pratiquez est immorale. Je vous donne un exemple très simple. Je suis en voiture, j'accompagne quelqu'un qui est blessé et je dois l'accompagner d'urgence à l'hôpital. Je me dis, voilà, il est extrêmement important que j'arrive vite à l'hôpital. Est-ce qu'il est moral que je grille les feux rouges? Appliquons Kant. Quel est le principe qui guide mon action? À chaque fois, j'élève, je dis à chaque fois parce que j'élève à l'universel. À chaque fois que je serai soucieux de la santé d'une personne, je suis en droit de ne plus respecter le code de la route. Vous imaginez bien que un motif aussi subjectif, élevé à l'universel, finit par rendre toute circulation impossible, s'il était appliqué par tous. Donc le principe est immoral. Je ne suis pas en droit de griller les feux rouges. C'est un exemple un peu simple, mais finalement ce que donne Kant, notamment dans les fondements de la métaphysique des mœurs, sont un peu similaires, enfin pas similaires, mais il prend l'exemple de la promesse dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Est-ce que, quand ça m'arrange, je suis en droit moralement de ne pas respecter une promesse? Alors, intuitivement, on se dit, ben non, c'est mal. Mais Kant ne veut pas qu'on en soit à l'intuition, ni même à quelque chose d'affectif. Il veut que ce soit purement rationnel. Pourquoi ? Parce que il faut que chacun, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa raison, quelle que soit son expérience empirique, quelle que soit sa conception du bonheur ou du bien, puisse comprendre, puisse accepter. Donc, il dit, est-ce que je suis en droit de ne pas respecter ma promesse ? Bien, Kant dit, on élève ce principe à l'universel, à chaque fois que ça m'arrange, je suis en droit de ne pas tenir une promesse tenue, et il explique, mais si vous dites ça, le sens de promesse et le sens de mensonge finissent complètement par disparaître. Ça n'a plus de sens de parler de promesse et de mensonge. C'est contradictoire. Si tout le monde applique ce principe à la lettre. Donc c'est immoral. Donc le but, vous voyez, c'est vraiment de fonder cela rationnellement. Alors ça implique ça quelque chose évidemment pour le sujet. C'est une discipline extrêmement grande. Parce que ça veut dire que le sujet, quand il doit accomplir son devoir moral, s'il souhaite être moral, ben ça veut dire qu'il doit mettre de côté tout ce qui est de l'ordre, je dis bien tout ce qui est de l'ordre, de l'affect, des émotions, du désir, des sensations, de la sensibilité. Kant regroupe tout ça sous le terme générique « sensibilité ». Tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité ne doit pas faire partie de la morale kantienne. Au nom d'une morale qui se veut universelle et, pour être universelle, purement logique et fondée sur un fait de la raison, qui est la loi morale qui dit « agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être élevée à une loi universelle ». Alors, je résume un tout petit peu. Je vais aller vite sur... un pavé comme ça de la philosophie morale de Kant. J'essaye de vous faire comprendre l'esprit de la philosophie kantienne. Et je résume un petit peu. Le but, et ça j'ai pas encore conclu là-dessus, mais j'y viens. Le but, c'est d'exercer la raison au mieux dans la faculté de désirer. Et là, l'exercer au mieux, c'est devenir libre. Je vais expliquer pourquoi. Qu'est-ce que cela implique de suivre la morale kantienne ? Cela implique de suivre un fait de la raison que Kant nomme impératif catégorique. Ce fait, c'est une loi que chacun a en soi. C'est une loi qui correspond à l'exigence de l'universalité du principe qui guide notre action. Cette loi, il faut la suivre non pas pour autre chose qu'elle-même. Il faut la suivre uniquement parce qu'elle est la loi morale, uniquement parce qu'elle est l'exigence de l'universalité. Et pourquoi, quand on applique ce devoir, sommes-nous libres ? Parce que, dit Kant, nous choisissons, par notre libre arbitre, de nous soumettre à une loi dont nous sommes nous-mêmes l'auteur. Choisir sa propre loi, c'est la définition la plus haute, la plus digne, la définition supérieure de la liberté pour Kant. Faire ce qu'on veut. Pourquoi on n'est pas libre dans le libre arbitre, dans la spontanéité de la vie ? Parce que nous sommes en permanence déterminés dans notre action par nos affects, nos émotions, notre sensibilité, sans que nous puissions vraiment prendre une décision de manière totalement autonome. Eh bien, pour Kant, seule la morale est capable de nous détacher du déterminisme des sensations et des affects. Seule notre raison est à même de nous en détacher, et il faut suivre notre devoir pour réussir à atteindre ce degré d'autonomie. C'est le degré le plus haut de la liberté. Morale très exigeante. Qu'est-ce que Sade peut bien avoir à faire avec tout cela ? Alors, comme ce soir, je voulais absolument vous lire des passages de Sade aussi pour... et qu'à chaque fois que j'avais promis ça, je me suis perdu dans mes feuilles au point de ne pas retrouver les passages que je voulais vous lire. J'ai fait appel à l'électronique ce soir, me disant que peut-être ce serait plus sûr pour retrouver les passages que je voulais vous lire. La philosophie dans le boudoir. C'est un ouvrage de Sade qui paraît... grosso modo, 4 ans après la critique de la raison pratique de Kant. On est vraiment dans la même période. Je l'avais déjà un peu évoqué la semaine dernière, si vous lisez la philosophie dans le boudoir, ça commence, avant le passage dont je vais vous parler ce soir, par 200 pages de pornographie absolue, avec tout ce que vous pouvez imaginer, de douleur, de sadisme, de perversion, tout ce que vous voulez, enfin bon, bref. C'est bien écrit, je reconnais, mais... Voilà, c'est quand même particulier à lire, même si on recherche, si on veut rechercher un peu l'excitation de l'érotisme, c'est un peu décevant. Hein. Donc, je vais surtout vous parler dans ce, même si c'est pas sans lien évidemment avec ce qui est dit avant, hein, il faut pas enlever Assad ce qui est Assad. C'est un écrit qui a sa cohérence globale, donc il faut le laisser. Mais je vais surtout vous parler du passage qui s'intitule dans le livre « Français, encore un effort si vous voulez être républicain ». Et je vous lirai des passages parce que vous allez voir à quel point Sade est quelqu'un qui écrit bien. Beaucoup mieux que Kant. Beaucoup mieux que Kant, du point de vue du style. Alors, quel est le but de Sade dans ce passage ? « Encore un effort pour être républicain ». On est peu de temps après la Révolution. Ben, déjà, on comprend une chose. L'art républicain, vous le verrez chez Sade, c'est maintenant qu'on a donné un beau coup de semonce dans tout ce qui nous empêchait d'être libres, allons jusqu'au bout pour atteindre la liberté véritable. Donc, fondons une éthique de vie, parce que Sade prétend que c'est une éthique de vie, dont le but souverain, ce sera d'atteindre une liberté véritable. Même prétention que Kant. Alors, que dit Sade ? Il commence par attaquer ce que la Révolution a déjà attaqué, mais il dit, oula, c'est pas suffisant. Je parle ici de la religion. Il faut démolir tous les dogmes religieux et aller jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout de la démolition de ces dogmes. Parce que c'est vraiment l'idolâtrie, c'est ce qui nous empêche d'être libres. Il faut absolument se débarrasser de tout ça. Pourquoi il faut se débarrasser de tout ça ? Je vais le montrer petit à petit, mais je le dis déjà. Parce que ça dit ce qu'il y a de plus embêtant pour la vie, ce qui nous empêche d'être véritablement libres et d'assouvir une véritable éthique de vie fondée sur le désir, c'est cette maudite exigence d'universalité de toute loi. Une loi, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. C'est contraire à la nature humaine, on va dire ça. Alors, c'est pas qu'une entreprise de démolition, il veut aussi fonder une éthique de vie, Sade. Alors, une éthique sur quel principe ? Eh bien, je vais commencer à vous le lire un peu pour vous montrer déjà le style et puis sur quel principe Sade veut que cette éthique repose. Donc, il vient de démolir la religion et il dit, enfin, il s'interroge sur, une fois qu'on a dit qu'il ne devait plus y avoir de dogme religieux, ben, sur quoi on fonde la morale ? Je vous le dis. Français, vous frapperez les premiers coups. Votre éducation nationale fera le reste. Mais travaillez promptement à cette besogne, qu'elle devienne un de vos soins les plus importants. Qu'elle ait surtout pour base cette morale essentielle, si négligée dans l'éducation religieuse. Remplacez les sottises déifiques dont vous fatiguiez les jeunes organes de vos enfants par d'excellents principes sociaux. Qu'au lieu d'apprendre à réciter de futiles prières qu'ils se feront gloire d'oublier dès qu'ils auront 16 ans, ils soient instruits de leurs devoirs dans la société. Apprenez-leur à chérir des vertus dont vous leur parliez à peine autrefois et qui, sans vos fables religieuses, suffisent à leur bonheur individuel. Faites-leur sentir que ce bonheur consiste à rendre les autres aussi fortunés que nous désirons l'être nous-mêmes. Si vous asseyez ces vérités sur des chimères chrétiennes, comme vous aviez la folie de le faire autrefois, À peine vos élèves auront-ils reconnu la futilité des bases qui feront crouler l'édifice. Et ils deviendront scélérats seulement parce qu'ils croiront que la religion qu'ils ont culbutée leur défendait de l'être. En leur faisant sentir au contraire la nécessité de la vertu, uniquement parce que leur propre bonheur en dépend, ils seront honnêtes gens, par égoïsme, et cette loi qui régit tous les hommes sera toujours la plus sûre de toutes. Que l'on évite donc, avec le plus grand soin, de mêler aucune fable religieuse dans cette éducation nationale. Ne perdons jamais de vue que ce sont des hommes libres que nous voulons former, et non de vils adorateurs d'un Dieu. Qu'un philosophe simple instruise ses nouveaux élèves des sublimités incompréhensibles de la nature. Qu'il leur prouve que la connaissance d'un Dieu, souvent très dangereuse aux hommes, ne servit jamais à leur bonheur, et qu'ils ne seront pas plus heureux en admettant comme cause de ce qu'ils ne comprennent pas, quelque chose qu'ils comprendront encore moins. Qu'il est bien moins essentiel d'entendre la nature que d'en jouir et d'en respecter les lois. Que ces lois sont aussi sages que simples, qu'elles sont écrites dans le cœur de tous les hommes, et qu'il ne faut qu'interroger ce cœur pour en démêler l'impulsion. S'ils veulent qu'absolument vous leur parliez d'un créateur, répondez que les choses ayant toujours été ce qu'elles sont, n'ayant jamais eu de commencement et ne devant jamais avoir de fin, il devient aussi inutile qu'impossible à l'homme de pouvoir remonter à une origine imaginaire qui n'expliquerait rien et n'avancerait à rien. Dites-leur qu'il est impossible aux hommes d'avoir des idées vraies d'un être qui n'agit sur aucun de nos sens. Je m'arrête là. Première chose déjà. Contre les principes de la religion, Sade prône les lois de la nature. Nature. Quelle loi ? Une loi qui est, dit-il, inscrite dans le cœur de chaque homme. Saint Paul disait quelque chose d'un peu identique. La morale, le devoir moral, j'ai plus les mots exacts en tête, mais est inscrite dans le cœur de chaque homme. Pour Sade, c'est la même chose. La loi morale est inscrite dans le cœur de chaque homme, et cette loi, c'est la nature. Franchement, en tout cas, dès le début dans ce passage, on est tout à fait dans des passages du point de vue théorique, tout à fait similaires à un grand nombre de philosophies morales et politiques. D'ailleurs, je vous rappelle que toute la philosophie politique, par exemple, se fonde à partir du XVIIe siècle sur un état de nature supposé de l'homme. Il est dans la nature de l'homme d'être telle chose, d'être telle chose, d'être telle chose. Bon, bah, Sade, il a le même point de départ. Nature de l'homme. Alors, il faut l'écouter, cette nature. Et que dit-il ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette nature de l'homme ? Il dit, c'est pas une nature universelle. C'est exactement le contraire. Quand on écoute notre nature, on écoute ce qu'il y a d'absolument singulier en nous. Il n'y a pas du tout d'exigence de l'universel en nous de manière naturelle. Ce qui est naturel, c'est ce qui est absolument singulier en nous. Et il dit pire que ça. Si on écoute notre nature, eh ben, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que du point de vue des règles morales habituelles, notre nature, elle nous pousse aussi bien vers la vertu que vers le vice. Donc, eh bien, il faut se laisser aller à ses penchants. Il le démontre. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est cohérent. Si notre nature, c'est cela, écoutons-la et continuons, allons jusqu'au bout de cela. Assumons notre singularité et notre nature qui nous pousse aussi bien vers le vice que vers la vertu. Et donc, ce qu'il dit, il le dit un peu plus loin dans le texte, c'est qu'il prétend fonder un système entièrement cohérent et logique à partir de cette loi première. Uniquement à partir de cette loi. Alors, pour vous montrer d'abord ce qu'il va en déduire, la première chose qu'il en déduit, c'est l'absurdité de vouloir fonder une loi universelle qui serait à l'origine d'une éthique pour l'homme. Non seulement c'est absurde, mais c'est même injuste. Il va jusque-là. Je vais vous lire le passage, parce que c'est à entendre, c'est aussi assez incroyable. Je vous lis quelques pages. La morale chrétienne, trop vague sur les rapports de l'homme avec ses semblables, pose des bases si pleines de sophismes qu'il nous est impossible de les admettre, parce que lorsqu'on veut édifier des principes, il faut bien se garder de leur donner des sophismes pour base. Elle nous dit, cette absurde morale, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Rien ne serait assurément plus sublime s'il était possible que ce qui est faux pût jamais porter le caractère de la beauté. Il ne s'agit pas d'aimer ses semblables comme soi-même, puisque cela est contre toutes les lois de la nature, et que son seul organe doit diriger toutes les actions de notre vie. Il n'est question que d'aimer nos semblables comme des frères, comme des amis que la nature nous donne, et avec lesquels nous devons vivre d'autant mieux dans un État républicain que la disparition des distances doit nécessairement resserrer les liens. Que l'humanité, la fraternité, la bienfaisance nous prescrivent d'après cela nos devoirs réciproques et remplissons-les individuellement avec le simple degré d'énergie que nous a, sur ce point, donné la nature, sans blâmer et surtout sans punir, ah oui, ça c'est important, sans blâmer et surtout sans punir ceux qui, plus froids ou plus atrabilaires, n'éprouvent pas dans ces liens, néanmoins si touchants, toutes les douceurs que d'autres y rencontrent. Car on conviendra, ce serait ici une absurdité palpable, que de vouloir prescrire des lois universelles. Ce procédé serait aussi ridicule que celui d'un général d'armée qui voudrait que tous ses soldats fussent vêtus d'un habit fait sur la même mesure. C'est une injustice effrayante que d'exiger que des hommes de caractère inégaux se plient à des lois égales. Ce qui va à l'un ne va point à l'autre. La loi, toutes les formes de loi, sont, pour Sade, une absurdité concernant la nature humaine. Et il est tout à fait possible, selon lui, de fonder une éthique à partir de cela. Alors bien sûr, ça suppose de ne plus considérer comme criminel un certain nombre de choses, beaucoup de choses, non seulement tout ce qui est de l'ordre, du blasphème, du sacrilège, etc., mais pas seulement. La prostitution, l'adultère, l'inceste, le viol, la sodomie, la calomnie, tout cela, il n'y a plus de raison de le considérer comme criminel, et il le démontre logiquement. Alors, comme je n'ai pas le temps de tout vous lire, je vais quand même vous lire le raisonnement qui concerne, c'est un des raisonnements, il va prendre chacun de ces aspects hein, et les démonter logiquement. À partir de ce principe premier de la loi naturelle qui consiste à dire que nous devons jouir de la nature en fonction des lois singulières de notre désir. Je vais vous parler de la calomnie. Voilà ce qu'il écrit sur la calomnie. J'avoue avec la plus extrême franchise que je n'ai jamais cru que la calomnie fût un mal. Et surtout dans un gouvernement comme le nôtre, où tous les hommes, plus liés, plus rapprochés, ont évidemment un plus grand intérêt à se bien connaître. De deux choses l'une. Ou la calomnie porte sur un homme véritablement pervers, ou elle tombe sur un être vertueux. On conviendra que, dans le premier cas, il devient à peu près indifférent que l'on dise un peu plus de mal d'un homme connu pour en faire beaucoup. Peut-être même, alors, le mal qui n'existe pas éclaire-t-il sur celui qui est, et voilà le malfaiteur mieux connu. S'il règne, je suppose, une influence malsaine à Hanovre, mais que je ne doive courir d'autres risques en m'exposant à cette inclémence de l'air que de gagner un accès de fièvre, pourrais-je savoir mauvais gré à l'homme qui, pour m'empêcher d'y aller, m'aurait dit qu'on y mourrait dès en arrivant. Exemple de calomnie. Non, sans doute. Car en m'effrayant par un plus grand mal, il m'a empêché d'en éprouver un petit. Donc voilà, pas de problème. Si la calomnie porte sur un homme pervers, elle a son utilité. Pourquoi la condamner ? La calomnie porte-t-elle au contraire sur un homme vertueux ? Qu'il ne s'en alarme pas, qu'il se montre, et tout le venin du calomniateur retombera bientôt sur lui-même. La calomnie, pour de tels gens, n'est qu'un scrutin épuratoire dont leur vertu ne sortira que plus brillante. Il y a même ici du profit pour la masse des vertus de la République, car cet homme vertueux et sensible, piqué de l'injustice qu'il vient d'éprouver, s'appliquera à mieux faire encore. Il voudra surmonter cette calomnie dont il se croyait à l'abri, et ses belles actions n'acquerront qu'un degré d'énergie de plus. Ainsi, dans le premier cas, le calomniateur aura produit d'assez bons effets en grossissant les vices de l'homme dangereux. Dans le second, il en aura produit d'excellents en contraignant la vertu à s'offrir à nous tout entière. Et je vous passe ce type de démonstration qui existe et franchement, logiquement, assez séduisante. Sur le viol, sur la prostitution, sur... Il va presque jusqu'au meurtre, mais sur le meurtre, il a quand même quelques réticences. Mais ça va aussi dans des choses plus intuitivement morales pour nous, l'abolition de la peine de mort, etc. Et tout ça, il le démontre à partir d'un système parfaitement logique qui pose cette loi initiale. Je dois suivre ma singularité absolue, les lois de mon propre désir, indépendamment de toute forme d'idolâtrie, indépendamment de toute forme d'exigence d'universalité, parce que l'universalité est une négation de la nature humaine. Pourquoi rapprocher Kant et Sade ? Vous allez me dire, les deux systèmes sont exactement inverses. Et je vous dirais, ben c'est précisément pour cela. Pourquoi ? Les deux systèmes sont parfaitement cohérents logiquement. Enfin, pas tout à fait, mais ils le prétendent. Or, on fait un tout petit peu de logique. Quand, dans une structure logique d'ensemble, vous remplacez chaque élément par son élément contraire, la structure logique est tout aussi valable qu'auparavant. Donc, déjà du point de vue, qu'est-ce qui diffère ? Ce qui diffère, c'est le principe initial, évidemment. Kant et Sade sont l'envers l'un de l'autre. Kant va dire quoi ? Je veux un idéal de liberté. Cet idéal de liberté, il est dans l'autonomie. L'autonomie repose sur l'exigence absolue d'universalité. Et cette exigence d'universalité dans la morale, elle est corrélative d'une loi qui doit être, par nature, contre mon désir singulier. Peu importe, enfin, elle ne l'est pas forcément, mais peu importe que mon désir soit en accord ou pas avec la loi morale, il doit se plier à mon devoir. Donc, négation de la sensibilité et de la singularité de chaque individu chez Kant. Et la morale s'articule à partir de cette exigence d'universalité dans un système tout à fait logique. L'idéal de Kant, c'est un système parfaitement logique. Je dis bien l'idéal parce que lui-même, si on fait un peu d'histoire de la philosophie, dans un des derniers textes qu'il écrira, qui s'appelle « La religion dans les limites, dans la simple raison », il verra bien que son système logique ne l'est pas parfaitement. Mais ce n'est pas le temps de développer ça. Je passe à Sade. Sade a un idéal de liberté. Et il veut fonder cette liberté lui aussi. Que dit-il ? Ben, cet idéal de liberté, il passe par le respect absolu de la singularité de chaque individu. la singularité des lois du désir et de la nature propre à chaque individu, peu importe que cette loi soit vicieuse ou vertueuse. Peu importe. La loi est ce qui nous empêche d'être ce que nous sommes. Et ça implique quoi chez Sade ? Une valorisation absolue de la sensibilité humaine, contrairement à toute exigence d'universalité, par nature, absurde. Et même injuste. Sade va jusque-là, hein. Je vous laisserai lire le texte. Donc les deux systèmes sont parfaitement inverses. Mais ils se rejoignent sur un point extrêmement séduisant, et c'est là que c'est là le trait de génie de Lacan, c'est là qu'il a ciblé ça avec une intuition extraordinaire. Il prend un passage de la Critique de la raison pratique et il en sort un tout petit passage qui est vraiment anecdotique, hein, apparemment dans la philosophie kantienne. Où Kant dit la chose suivante, Critique de la raison pratique. Kant dit, bon, c'est vrai, la morale doit être indépendante de tout affect, toute sensibilité. Mais il y a une chose, parfois, un affect, un seul, qui peut parfois pour nous être le signe que nous avons fait une action morale. Comme l'action morale suppose parfois d'aller à l'encontre de notre propre désir, le signe affectif, émotionnel, que parfois nous accomplissons une action morale, c'est la douleur. La douleur. Alors là, Lacan commente un peu. Et enfin, il commente cet aspect-là pour marquer le lien chez Kant entre quelque part, il ne le développe pas du tout, Lacan. Donc je vais essayer de l'interpréter un peu, mais le lien entre la jouissance et la douleur. Il y a un problème chez Kant. C'est que ce qu'il ne résout jamais, c'est la raison pour laquelle nous devrions forcément choisir la voie de la moralité plutôt que celle du mal. Pourquoi ? Il ne le justifie jamais. Pour lui, ça représente le plus haut degré de liberté. Mais c'est précisément sur ce point qu'il va revenir dans le texte qui s'appelle « La religion dans les limites de la simple raison ». Et il dit, voilà, au fond, j'ai jamais vraiment pu démontrer que l'autonomie était quelque chose de plus fort que le libre arbitre. Pour dire les choses un peu vite. Et pourquoi, pour Kant, devons-nous suivre la loi morale ? Kant dit toujours « la loi morale doit être suivie pour elle-même, uniquement pour elle-même, jamais pour une autre raison ». Autrement dit, si là on cherche maintenant à interpréter ce que veut dire Lacan, la seule manière, la seule justification qu'il y ait à suivre la loi morale, c'est de l'aimer. Autrement dit, d'éprouver une certaine jouissance à appliquer la morale. Jouissance, on y est, jouissance d'appliquer la loi morale, qui, Kant nous l'avoue, est indissociable d'une certaine douleur. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Ça veut dire que si vous poussez le système kantien dans sa logique la plus rigoureuse, la plus absolue, vous allez vers la douleur. Si on applique l'éthique sadienne dans sa logique la plus absolue, jusqu'au bout, et c'est ce qui est décrit dans tout le dialogue, dans tous les dialogues pornographiques qui précèdent le texte dont je vous parlais, si vous allez jusqu'au bout de cette éthique de vie, sans aucune limite, vous allez vers quoi ? La douleur. C'est ça le sadisme. Autrement dit, ce que veut dire Lacan, c'est que, concernant Kant cette fois, s'appliquer à la lettre la loi morale kantienne, c'est être sadique avec soi-même. C'est pousser la jouissance d'un système logique jusqu'au bout et donc jusqu'à la douleur. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça, maintenant qu'on a vu le rapprochement, puisque c'est quand même notre objectif et je me dirige vers ma conclusion pour ce soir. Qu'est-ce qu'on peut en tirer concernant le désir? Parce que on ne peut pas dire que Kant abolisse totalement le désir. Il s'agit pour lui d'aboutir à une faculté supérieure de désirer, mais une faculté d'un désir qui est essentiellement ancré dans l'exigence de la loi et du devoir. Chez Sade, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que le désir est ce qui impose sa loi à toute forme de norme universelle, morale, que l'on pourrait supposer. Donc ce que ça nous dit sur le désir, eh bien, c'est précisément que le désir est exactement entre ces deux choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est autre que ces deux choses, à chaque fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désir d'un individu singulier n'est jamais réductible, jamais, à une quelconque loi, norme, discours existant. C'est absolument singulier, le désir de quelqu'un, d'un certain côté. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi qu'à partir du moment où un désir est posé, il fait sens et il fait loi. Et il devient une exigence pour l'individu qui le pose. Donc il y a simultanément dans le désir quelque chose d'absolument original, hors de toute norme, et l'incarnation ponctuelle et immédiate d'une norme nouvelle. Et c'est là que je rejoins la question du style et de l'étonnement. Parce que c'est ce que j'avais essayé de décrire sur la question de l'étonnement. L'étonnement, c'est quelque chose qui, je vous disais dans les premières séances, quelque chose qui est hors de toute norme établie et qui, à partir du moment où il va se formuler, à travers une expression, à travers un bien-dire, va ouvrir un champ de sens et un champ de normes absolument nouveau. L'étonnement, c'est simultanément un manque et une création. C'est simultanément une loi et une absence de toute loi. Le désir, c'est pour ça que le désir fonde l'étonnement, c'est parce que le désir est exactement sur cette frontière-là. La frontière entre ce qui fait absolument loi et ce qui est absolument hors d'elle. Entre ce qui est hors norme, hors de l'ordinaire, et qui fonde l'ordinaire et le normal. Et c'est là aussi que, du point de vue de la structure, on rejoint toute la question du style. Le style, le fait de bien dire, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un style? Un style, c'est une chose qui est absolument originale au moment où ça surgit, mais qui en même temps fait loi et fait sens pour tout un ensemble de choses ensuite. Qu'est-ce que c'est que le style impressionniste au moment où Monet peint Impression Soleil Levant? Il met de côté tout un cadre, tout un ensemble de manières de peindre, notamment la profondeur, notamment la perspective géométrique, etc. Il se met hors norme et fonde un sens nouveau pour la peinture, fonde une norme nouvelle. Le désir a quelque chose de cela, c'est-à-dire de cette forme d'étonnement qui est en même temps créatrice, de cette forme d'étonnement qui est en même temps, au moment où il naît, hors norme et normal. Et un style, dans sa structure, est exactement cela. Voilà, donc il me semble que c'est par là qu'on peut retenir de ce rapprochement entre Kant et Sade, non pas l'idée que le désir est chez l'un ou chez l'autre, Mais le fait que précisément leur système soit l'envers l'un de l'autre nous montre que le désir est précisément à la frontière entre ces deux systèmes logiques absolus, dont l'un valorise l'universalité et le devoir, et l'autre la singularité absolue et le désir individuel. Je vous remercie.